Éric Bataillon.
Bonjour. La question des frontières au Moyen-Orient fait l'objet d'un intense débat ces derniers mois, avec une référence marquée aux accords Sykes-Picot de 1916, accord entre deux puissances coloniales d'alors, la Grande-Bretagne et la France. Mais ces accords ne concernent que les zones d'influence et les frontières parfois remises en cause aujourd'hui sont souvent plus anciennes. Deux avis sur la question, celle du géopolitologue Michel Fouché et le cas du Liban Sud avec le sociologue suisse Daniel Meyer. Quelle place tient la guerre des Six Jours dans la mémoire israélienne? Une place politique centrale, à n'en pas douter. Un documentaire, Censored Voices, vient tempérer l'enthousiasme populaire en mettant en scène des témoignages de soldats israéliens recueillis en 1967 et jusque-là censurés. À suivre également la revue de presse, Regards croisés sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
La guerre des Six Jours a marqué un tournant politique majeur pour Israël. D'État en construction, arc-bouté sur lui-même, le pays s'est transformé soudain en force d'occupation. C'est pourquoi Censored Voices est un documentaire qui fait grand bruit en Israël. Signé par une toute jeune cinéaste, Mor Lushi, il sort du silence et de la censure des témoignages extraordinaires recueillis auprès de jeunes soldats israéliens en 1967, quelques jours seulement après la guerre des Six Jours.
Remember 48, a year of hope and struggle.
We fought for our state, again in 56. We'll have to be as brave, once more in 67. No matter what they do, you'll see us passing through.
Avec ce film, Elisabeth Le Quéret, c'est quasiment un mythe national qui s'effondre.
Oui, parce que ces témoignages racontent une guerre des Six Jours qui est bien loin de celle enseignée dans les manuels d'histoire en Israël. Ces témoignages, ils ont été recueillis, vous le disiez Eric, une semaine seulement après la fin de la guerre, recueillis par de tout jeunes gens qui étaient à l'époque dans des kibboutz, notamment par Amos Oz, qui n'était pas encore à l'époque le grand écrivain qu'on connaît, et Avraham Shapira. Et donc ces jeunes gens sont partis à la rencontre de soldats, tout ça dans une ambiance un peu clandestine. Alors pourquoi tant de secrets? Qu'est-ce qu'on entend dans ce film? Eh bien, on entend des soldats qui racontent comment dans le désert du Sinaï, par exemple, les soldats israéliens partaient à la recherche d'Égyptiens sans armes pour les tuer. Un soldat israélien dit « Pendant cette guerre, on est tous devenus des assassins ». Il y a aussi des mots très lourds pour décrire l'exode des populations arabes quand les Israéliens entrent dans Jérusalem. Il y a un soldat qui dit « Quand je vois ces femmes ravagées, quand je vois ces enfants qui pleurent, je pense à la Shoah ». Donc c'est quand même des mots qui pèsent lourd et rien à voir évidemment avec le mythe de la guerre des Six Jours tel qu'il peut encore aujourd'hui être enseigné en Israël.
Vous savez, ça a été tellement rapide. Les gens pensaient que ce serait un troisième holocauste, que quelque chose de terrible allait survenir. Et puis en six jours, Israël a gagné. En six jours, Israël a occupé tous les territoires qui sont maintenant au cœur du conflit. Gaza, la Cisjordanie.
And no one talked about the price. And
et personne n'a parlé du prix à payer. Quand j'ai écouté pour la première fois ces témoignages, je me suis aperçu qu'une semaine après la guerre, les soldats savaient déjà que le prix à payer serait très lourd. Ces témoignages ont été censurés, et pas seulement par la censure officielle. C'est la société tout entière qui ne voulait pas les entendre. L'euphorie régnait. Personne ne voulait entendre parler de cet aspect de la guerre.
Effectivement, on ne s'étonnera pas que ces témoignages aient été censurés pendant 50 ans.
En fait, il y a eu un livre publié par Avraham Shapira, donc l'un des jeunes gens qui ont recueilli ces témoignages. Ça a été un best-seller à la fin des années 60. Mais Mor Lushi dit d'une part que ce livre a très vite disparu des librairies et que par ailleurs, les témoignages les plus durs n'étaient pas dans le livre, alors que bien sûr, ils sont au cœur de son film, ce qui évidemment n'a pas échappé à la censure israélienne.
The censorship body in Israel, it still exists, unfortunately.
Malheureusement, oui, il y a une censure en Israël. Et en tant que cinéaste, je la déplore. Mais c'est la loi. Et mon film a dû passer devant la commission de censure.
I'm not allowed to say a lot of things about it.
Je n'ai pas le droit d'en parler, mais je peux vous dire que ça a été très dur. D'abord, ils voulaient enlever des scènes entières du film. Nous avons pris un très bon avocat. À la fin, le film a pu sortir sans coupe, mais on a eu beaucoup de chance.
Censored Voices, c'est pour l'essentiel un film construit à partir d'images d'archives, mais la cinéaste a aussi retrouvé 50 ans plus tard certains des soldats qui ont témoigné.
Oui, c'est très émouvant parce que ce sont d'abord c'est un pont entre le présent et le passé. Ça réveille, on voit bien hein, dans le film de Marlouchi, de vieilles blessures, mais aussi parce que du coup on voit à quel point ce film entre pleinement en résonance avec l'actualité et comment cette violence, en l'occurrence violence d'État israélienne, trouve pleinement ses racines dans la guerre des six jours.
Censored Voices, un documentaire incroyable de l'israélienne Marlouchi sur la guerre des six jours. Elisabeth Lequiré, merci.
Orient Hebdo sur RFI.
De nombreuses frontières au Moyen-Orient sont de nouveau discutées aujourd'hui. Pas un jour sans qu'on le remette en cause, telle ligne de partage entre l'Irak et la Syrie et la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Yémen, l'Irak et le Koweït, en pointant du doigt le supposé découpage occidental effectué au début du siècle dernier. Pourtant, à y regarder de plus près, nous explique Michel Fouché, professeur de géopolitique appliqué à la Fondation des sciences de l'homme, les frontières actuelles obéissent à quatre grands arguments en leur faveur.
Le premier élément, c'est que la notion de frontière, elle est très ancienne. La frontière la plus ancienne, c'est celle entre l'Empire ottoman et l'Empire perse. Elle date de mai 1639, elle n'a pas bougé. Aujourd'hui, c'est la limite entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et l'Iran. Ça a bougé pendant la guerre Irak-Iran. Il y a eu un accord d'Alger en 75 et pratiquement maintenant elle est stable. Ensuite, les empires et les califats arabes avaient parfaitement une notion très claire de la frontière. Il y a tout un vocabulaire de la frontière, notamment dans la lutte entre les Byzantins. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on dit parfois que la vocation du monde arabe, c'est de former une unité, une oumma, une nation. Bon, on s'aperçoit que depuis un siècle, il y a eu des phénomènes de différenciation qui sont tout à fait importants, que ce soit sous l'effet des emprises foncières des grandes bourgeoisies, des grandes villes, Damas, Mossoul, Bagdad et quelques autres, et le Caire bien sûr, ou bien par ce jeu minorité-majorité en fonction des configurations politiques dans ces États. Donc le grand rêve de la nation arabe du shérif Hussein, inspiré par les Britanniques, évidemment, ne s'est jamais réalisé, ne se réalisera jamais. Le troisième point en détail, c'est que Sykes-Picot n'a pas dessiné des frontières. Sykes-Picot, c'est un accord de 1916 qui définit des zones d'influence qui ne sont pas appliquées, puisqu'en 1917, les Russes se retirent du jeu à cause de la révolution russe. Il y a la déclaration Balfour et il y a la politique britannique. Donc, en fait, sur 14 000 kilomètres de frontières, une trentaine de dyades frontalières dans la région, il y a que, en gros, 900 kilomètres qui viennent, en gros, de Sykes-Picot, c'est-à-dire Jordanie, Syrie, et une partie de la frontière entre la Syrie et l'Irak. Tout le reste, c'est lié à le traité de San Remo de 1920 entre la France et le Royaume-Uni, donc c'est la Palestine et la Transjordanie, jusqu'au Golfe, qui était une préoccupation britannique, notamment de l'Empire des Indes, et puis, ensuite, toute la stratégie des Saoudiens qui vont négocier avec les Britanniques en remontant le plus possible en direction de l'actuelle Jordanie et de l'actuel Irak. Donc vous avez les acteurs locaux. Et puis le quatrième point, c'est que c'est vrai qu'il y a une demi-douzaine de frontières dans la région qui ne sont pas délimitées. La ligne bleue Israël-Liban, la ligne verte avec la Cisjordanie. Il y a des tensions en Syrie, en Turquie à cause du Sanjak d'Alexandrette. Mais il y a eu en même temps des phénomènes, des traités. Israël-Égypte en 75, Israël-Jordanie, il y a eu des accords de remaniement frontalier entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite, des phénomènes de fortification entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, des règlements frontaliers entre Qatar, Bahreïn, Émirats qui donnent un accès à la mer, au Golfe maintenant, à l'Arabie Saoudite. Donc il y a un processus, un peu comme ailleurs, de consolidation des frontières, même s'il y a de très très graves contentieux. Mais la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a trois niveaux à prendre en compte, si vous voulez. Les frontières classiques, les métafrontières qui sont finalement aujourd'hui, on est dans des nouvelles configurations d'influence, en gros entre Riyad et Téhéran, et aujourd'hui aussi entre les Russes et les Américains. Il y a des zones d'influence, disons, opérationnelles. Donc ça, c'est un élément, c'est ce que j'appelle les métafrontières, et puis vous avez en dessous, c'est beaucoup plus grave, des infrafrontières en formation par la violence, puisque toute la politique du régime actuellement syrien consiste à faire du nettoyage ethnique, comme en Yougoslavie, et à créer une espèce de Syrie utile, avec l'aide des Russes, qui serait débarrassée de l'adversaire sunnite. Et ça, c'est en cours, et c'est beaucoup plus grave. On trouve la même chose en Irak, mais là, il y a trois zones. On peut très bien trouver en Irak une formule confédérale souple qui donne aux chiites, aux sunnites des quatre provinces centrales et aux Kurdistan quasiment indépendants, irakiens, des formules confédérales à condition qu'on se mette d'accord sur la répartition des ressources pétrolières.
Si les frontières sont souvent imposées, parfois maladroitement et souvent contre la réalité du terrain, elles finissent toujours par devenir réelles. C'est le cas de la ligne bleue entre le Liban Sud et Israël, souligne le sociologue politique Daniel Meyer.
Elle est plusieurs choses. Elle est d'abord probablement le trait hégémonique des Nations Unies et de la communauté internationale sur cet espace. La réaffirmation de la ligne d'armistice de 1949, qui elle-même se base sur la séparation franco-britannique de 1923. En quelque sorte, la ligne bleue vient légitimer, qu'on le veuille ou non, et le gouvernement libanais le sait très bien et le dit à demi-mot lorsqu'on est plutôt à table que dans un entretien de face à face. Voilà, on sait très bien que la ligne bleue, dans le fond, une fois qu'elle sera terminée, une fois que son marquage sera terminé, on pourra déclarer la frontière.
Est-ce que cette frontière, cette ligne bleue, est la plus sûre, entre guillemets, dans un contexte où effectivement à l'est, il y a la Syrie et donc un risque ?
Il y a un fait qui doit être souligné, c'est que depuis la présence onusienne renforcée de la FINUL après 2006 et le retour de l'armée libanaise au sud du Liban, dans la foulée de la résolution 1701 de la même époque, qui a mis fin à la guerre en 2006, force est de reconnaître qu'il y a une forme de sécurisation de la région et que le Hezbollah a été en quelque sorte obligé de se replier un peu plus au nord, en tout cas de diversifier ses investissements dans d'autres directions, notamment politique, et de ce fait-là d'être moins présent dans l'administration de la région frontalière au sens de son rythme social, politique et militaire. Il ne peut plus, en d'autres termes, faire n'importe quoi. Il ne peut plus faire les kidnappings auxquels il se livrait, même si je pense qu'il aurait encore les moyens, bien sûr, de le faire, mais ça devient plus compliqué, il faut bien l'avouer. Et dans le fond, est-ce que c'est encore dans son intérêt ? En l'état actuel des choses. Donc, je crois que dans le contexte actuel, le conflit syrien, paradoxalement, alimente un espace de paix au sud du Liban, entre le Liban et Israël. Évidemment, d'une part, en raison de la présence renforcée des Nations Unies, et également en raison des investissements du Hezbollah sur la région.
Le sociologue Daniel Meyer et le géopoliticien Michel Fouché s'exprimaient voici quelques jours à la mairie de Paris, à l'initiative du CCMO, le Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient, et de la revue trimestrielle Moyen-Orient.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Lucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Et tout d'abord Michel, ce scoop de Yediot Aharonot sur la position du président palestinien dans le conflit actuel.
Oui Eric, c'est le grand titre qui barre la une du Yediot Aharonot, une info qualifiée d'étonnante par le journal. Mahmoud Abbas demande aux députés arabes de la Knesset, ne vous rendez pas à l'esplanade des mosquées. Le président palestinien aurait également demandé à ses interlocuteurs de cesser toute incitation à la violence. Un des députés aurait indiqué au Yediot Aharonot qu'à ce stade, Mahmoud Abbas pense qu'il faut tout faire pour calmer la situation. Alors il faut souligner que ce scoop du journal israélien a depuis été démenti, mais du bout des lèvres. Et puis les quotidiens israéliens font part de ce qui peut être considéré comme un geste de la part d'Israël. Le beau-frère du président palestinien a subi il y a quelques jours une opération à cœur ouvert dans une clinique de Tel Aviv.
Et il est également question, Michel, dans la presse, de ce qui se passe dans les coulisses de ce conflit.
Oui, là, il faut retenir le principal titre du quotidien libéral Haaretz. Sans solution politique, l'armée israélienne prévoit que la situation est vouée à l'escalade. Et, toujours selon le journal, les responsables militaires sont convaincus que dès le mois de décembre, Israël devra procéder à un rappel de réservistes. Et cette fois, non pas de la police et des gardes frontières, mais bien des soldats, des unités régulières. Alors, Eric, les journaux sont remplis de détails sur les divers incidents et la riposte au niveau de la rue, avec un débat qui est lancé par la presse, notamment à propos de ce lynchage d'un demandeur d'asile qui a eu le malheur de se trouver sur les lieux d'un attentat à la gare routière de Beersheba, et aussi à Jérusalem où un étudiant d'institut talmudique a été abattu par les policiers dans des circonstances pas encore très claires. Un commentateur le souligne, la politique de la gâchette facile risque de dégénérer très rapidement, et cela devient le Far West, écrit-il.
Alexandre, le balai diplomatique autour de la Syrie fait la une de tous vos journaux.
Oui, tout à fait. Les journaux s'intéressent surtout à la visite de Bachar el-Assad en Russie. Une visite que certains analystes qualifient de convocation du fonctionnaire Assad par le Kremlin. Ils notent que Assad est apparu seul et sans état-major sur la télé russe. Il n'a même pas eu droit à un petit drapeau syrien à côté de lui, comme cela est l'usage pour les chefs d'État, soulignent les journaux. Et pour certains éditorialistes, cela pourrait augurer d'un lâchage à terme du président syrien. Ils indiquent que Moscou propose un plan en vertu duquel Assad demeurera au pouvoir pour une période transitoire de 18 mois, au cours de laquelle des élections législatives seront organisées dans les zones contrôlées par le régime et laisse ouverte la question de la candidature ou pas de Bachar el-Assad à des élections présidentielles successives. Des manœuvres diplomatiques qui ont précédé la réunion de Vienne entre les chefs de diplomatie américaine, turque et saoudienne vendredi.
Et puis Alexandre, on apprend que la Russie interviendrait aussi au Yémen, selon des journaux.
Oui, la presse arabe indique qu'une délégation de la rébellion Houthi a été reçue par l'envoyé spécial du président Poutine au Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov. Les deux parties ont souligné, selon les journaux, la nécessité de trouver une solution politique au conflit au Yémen. Une réunion dont les résultats ont été transmis au vice-président yéménite Khaled Mahfouz par le biais de l'ambassadeur russe en Arabie Saoudite, l'Arabie qui conduit la coalition militaire arabe contre la rébellion Houthi.
Michel Paul, la petite phrase de Benjamin Netanyahou sur le rôle du grand mufti de Jérusalem qui aurait incité Hitler à opter pour la solution finale est largement commentée.
Beaucoup d'encre en effet sur ce sujet. Un éditorialiste estime que cela ressemble peut-être à un lapsus, mais cela n'en est pas un. La rhétorique de Netanyahou est plus forte que lui, plus forte que la vérité aussi. Cela lui est arrivé avant l'assassinat de Rabin et c'est en train de se produire à nouveau. Et un autre éditorialiste estime que Netanyahou a réussi à faire ce que les dirigeants israéliens reprochent en général aux négationnistes. Il a contribué à banaliser la Shoah.
Largement commenté aussi, Alexandre, les législatives égyptiennes.
Oui, tout à fait. La question qui retient l'attention de la plupart des journaux est celle de l'échec du parti salafiste Al-Nour, que ce soit au niveau du scrutin de liste ou du scrutin individuel. Le parti islamiste radical, qui a soutenu la destitution du président frère musulman Mohamed Morsi, n'a pas réussi à obtenir les voix des sympathisants de la confrérie, ni même à mobiliser ses propres troupes, estiment les analystes. Alors, selon les journaux, la question qui se pose maintenant est de savoir si le parti Al-Nour se retirera de la seconde phase des élections qui concerne la seconde moitié de l'Égypte. Et les journaux se penchent aussi sur la débâcle du plus vieux parti laïque libéral d'Égypte, le WAFD. La plupart des candidats du parti qui étaient arrivés troisième lors des législatives de 2012 ont été exclus dès le premier tour.
Michel Paul, un autre article particulièrement intéressant dans la presse israélienne de ce week-end.
Oui, c'est un article que l'on retrouve à la une de Haaretz. Le commissariat israélien à l'énergie atomique l'affirme, l'accord sur le dossier nucléaire iranien obtenu par les grandes puissances est, tenez-vous bien Eric, un bon accord et il empêchera l'obtention de l'arme nucléaire par l'Iran. Autrement dit, cette agence israélienne opte pour une position diamétralement opposée à celle du gouvernement israélien et de son chef.
Comme quoi, tout est possible. Pour conclure, Michel, votre photo du jour.
Bien, c'est la photo d'Yitzhak Rabin, assassiné il y a tout juste 20 ans, selon le calendrier hébreu. Elle figure dans tous les journaux. Les cérémonies de commémoration débutent ce week-end.
Assassinat par un étudiant juif. Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine. À samedi prochain, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.